BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Emmanuel Macron doit présenter demain les grandes lignes du plan de relance économique. On sait déjà que la question de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, sera une priorité avec des dispositifs qui pourraient être mis en place dès la semaine prochaine. On sait aussi qu'il y aura une étroite collaboration avec les régions pour offrir davantage de granularité avec des réponses plus spécifiques en fonction des territoires. On va en parler avec Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous venez de publier une note dans laquelle vous effectuez un certain nombre de propositions sur ce que pourrait être ou devrait être ce plan de relance. Mais d'abord, on va dresser un état des lieux de la crise que nous traversons. C'est une crise mondiale, inédite, avec un choc à la fois sur l'offre et sur la demande et aussi avec d'importantes disparités. Quelle est votre analyse de cette situation ?
Oui, c'est vrai que c'est inédit par son ampleur, c'est inédit aussi par la nature. C'est pas une crise standard au sens où ça viendrait du cœur du système. C'est une crise qui vient complètement de l'extérieur avec ce choc sanitaire. Et puis c'est une crise qui a un impact très différent selon les secteurs. Il y a des secteurs qui sont surtout affectés par un choc d'offres, donc les conditions de production sont affectées. Et puis d'autres, je pense par exemple à Airbus, c'est plutôt un choc de demande, c'est-à-dire que le carnet de commandes se tarit. Et donc c'est pour ça que certainement en termes de réponses, il faut des réponses qui soient différentes en fonction des secteurs et des réponses qui soient différentes aussi des crises passées.
La France fait partie des pays qui sont les plus affectés par cette crise. Le gouvernement anticipe une contraction du PIB d'environ 11% cette année. Vous pensez qu'on a eu tort de privilégier le sanitaire souvent au détriment de l'économie ?
Non, je pense pas. C'est un choix politique, mais même en termes économiques. Regardez ce qui se passe aux États-Unis où il n'y a pas eu de confinement généralisé comme en France ou dans d'autres pays européens. Et en fait, l'épidémie repart, et ça a un impact aussi négatif sur l'économie. Donc, je pense que on a bien fait de le faire. Maintenant, évidemment, toute l'incertitude c'est la question est-ce que l'épidémie va repartir ? C'est l'incertitude majeure, en fait, aussi d'un point de vue économique.
La reprise économique a été finalement un peu plus vigoureuse que ce qu'on espérait au départ, avec notamment un effet rattrapage sur la consommation dans certains secteurs. Vous pensez qu'on peut avoir une bonne surprise avec peut-être une reprise plus dynamique que le scénario dominant actuellement ?
Oui, la situation est meilleure que ce qu'on avait anticipé au sens où la consommation repart plus rapidement. Alors, je parlerai pas de rattrapage au sens où la consommation s'est effondrée pendant le confinement. Elle revient maintenant à des niveaux quasi normaux, mais enfin, à peu près 5% en dessous de la normale. Mais il n'y a pas de rattrapage au sens où la consommation n'augmente pas pour compenser les pertes qu'il y a eu pendant le confinement. Donc, les choses paraissent aller mieux et aussi en termes de production que ce qu'on aurait pu anticiper. Évidemment, toute la difficulté, c'est va être de revenir à la normale assez rapidement, parce que moins 5% en termes de consommation, c'est certes beaucoup moins que les moins 30% pendant le confinement, mais ça reste quand même assez considérable.
Vous venez de publier une note de stratégie qui, selon vous, serait pour présenter la solution, les mesures qui seraient les plus appropriées dans ce contexte. Vous pensez que l'État doit être à la fois réactif pour s'adapter justement à ce contexte et extrêmement lisible pour rassurer à la fois les consommateurs et les entreprises. Expliquez-nous.
Oui, je pense qu'il faut avoir une stratégie qui soit lisible, et donc il faut avoir un plan de relance qui devrait être annoncé rapidement, ce que a priori fait à faire le gouvernement. Et en même temps, je pense que, étant donné les incertitudes de la situation, à la fois d'un point de vue sanitaire et économique, il faut être relativement flexible. C'est-à-dire d'abord flexible en fonction des secteurs, et puis aussi potentiellement pouvoir aménager le plan de relance, c'est-à-dire faire plus si nécessaire. C'est ce qu'on appelle une stratégie contingente. Et donc, en effet, on propose une stratégie où il y a des mesures de court terme dont l'ampleur peut être modifiée en fonction de la situation, et puis des mesures plus d'investissement ou de réorientation de la croissance à long terme.
Vous pensez qu'il faut agir sur quatre fronts, l'entreprise, l'emploi, le pouvoir d'achat et la réorientation de la croissance, notamment vers la transition environnementale ?
Oui, alors c'est ces quatre points qu'on détaille. Donc, il y a des mesures de court terme, donc c'est En gros, on dit il faut 2 points de PIB, hein, sur le plan de relance, c'est ce qu'on estime nécessaire. La moitié, c'est des mesures de court terme, donc c'est l'emploi, l'aide aux entreprises et en particulier un bouclier anti-faillite, et puis l'aide au pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles. Et l'autre moitié, ce sont sur des mesures plus pérennes de réorientation de la croissance, en particulier en termes de transition écologique. Aussi, on pense qu'en termes, il faut des mesures sur l'université, la formation, la recherche, des mesures qui aident à la relocalisation de l'industrie, en particulier sur les impôts de production, et puis la santé, mais qui est en fait déjà en partie décidée par le gouvernement.
Alors on sait que je vous en prie.
Oui, si je reviens sur l'emploi, qui va être quand même la question de la rentrée, hein, parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une période risquée, qui est celle de l'automne-hiver, où potentiellement la reprise pourrait dérailler, parce qu'on va avoir une augmentation du chômage, des faillites, et donc il pourrait y avoir une baisse de la confiance des ménages et des entreprises, qui aurait un impact sur la consommation, l'investissement, et on aurait donc un mécanisme d'amplification circulaire qui serait potentiellement très négatif. Donc pour casser ce risque, on propose des primes à l'embauche, en particulier pour les jeunes, mais pas seulement. On propose aussi des mesures sur le bouclier anti-faillite, donc pour aider les entreprises qui vont être dans des situations difficiles en termes de solvabilité. La question de la liquidité a été bien gérée par le gouvernement, hein, c'est en particulier le prêt garanti par l'État, mais ça ne règle pas tous les problèmes parce que ça augmente évidemment la dette des entreprises, mais ça ne règle pas un certain nombre de problèmes de solvabilité pour les entreprises. Et puis finalement, on pense aussi qu'il faut avoir des transferts en particulier vers les ménages fragiles. On propose par exemple le doublement de l'allocation rentrée scolaire. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de ménages, les plus modestes, n'ont pas augmenté fortement leur épargne pendant le confinement, contrairement aux ménages plus aisés. Hein. Il y a 80 milliards d'épargne qui ont été accumulés pendant le confinement, donc a priori qui peuvent être consommés, c'est une bonne chose, mais ça a été peu le cas pour les ménages modestes. Donc ça, c'est des mesures de court terme, emploi, pouvoir d'achat et puis entreprise.
L'enjeu, c'est d'inciter les ménages à dépenser justement cette épargne contrainte. La Banque de France nous dit que ça pourrait représenter plusieurs points de PIB.
Absolument. Nous, l'estime à autour de 80 milliards d'euros. Hein, donc, c'est en effet une somme considérable. Et donc, tout l'enjeu, c'est que cette épargne qui a été contrainte pendant le confinement ne se transforme pas en épargne de précaution, où les ménages se diraient que l'incertitude économique, l'incertitude en termes d'emploi ferait qu'ils devraient garder cette épargne. Il faut qu'en effet les inciter à consommer cette épargne. Et c'est là où la lisibilité est donnée des repères dans le futur et rassurer à la fois les entreprises et puis les ménages est extrêmement important pour les inciter en effet à consommer cette épargne.
Pour les entreprises, justement, la baisse des impôts de production, ça vous paraît être une piste intéressante ?
Oui, alors le Conseil d'analyse économique s'était déjà prononcé sur les impôts de production, même avant la crise. Hein, on disait que la C3S en particulier était un impôt franchement imbécile. Hein. C'est un impôt qui taxe les exportations, qui subventionne les importations. Et c'est aussi un impôt parce qu'il est dans le haut du bilan des entreprises, c'est-à-dire qu'elles doivent le payer quel que soit leur profit, qui fragilise les entreprises pendant les crises. Et donc typiquement dans la crise actuelle, avoir un impôt qui taxe le chiffre d'affaires n'est certainement pas une bonne idée. Donc entre guillemets, réduire les impôts de production aujourd'hui, c'est faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois régler un problème conjoncturel de fragilité des entreprises et puis aussi inciter à la relocalisation à plus long terme, augmentant la compétitivité et l'attractivité de la France.
Un dernier mot sur les réformes, c'est un point qui a beaucoup été commenté la semaine dernière. Faut-il poursuivre ou au contraire suspendre les réformes en cours, notamment celles des retraites? Même le MEDEF estime qu'il n'y a pas d'urgence à reprendre les négociations sur la réforme des retraites.
Alors ça dépend beaucoup ce qu'on met dans la réforme des retraites. Moi je m'étais prononcé contre l'âge pivot. Je pense que ça n'est pas l'urgence en effet. Je crois que pour les 6 mois qui viennent, l'urgence, c'est la reprise et donner une visibilité aux entreprises et aux ménages.
Merci beaucoup Philippe Martin d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes président délégué du Conseil d'analyse économique. On marque une pause. Dans un instant, on parlera des discothèques et des bars de nuit qui restent fermés et qui pensent être les grands oubliés du déconfinement. Tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
Les discothèques et les bars de nuit se plaignent d'être les grands oubliés du déconfinement. Alors que les cafés et les restaurants ont été autorisés à rouvrir leurs portes il y a quelques semaines, les clubs et établissements festifs de nuit font toujours l'objet d'une fermeture administrative avec pour l'instant très très peu de visibilité quant à une éventuelle date de réouverture. On va en parler avec Jean Roc. Bonjour, vous êtes une figure de la vie nocturne, propriétaire du VIP Room à Paris et puis gérant bien sûr de plusieurs établissements à Saint-Tropez. D'abord un mot sur la situation, vous dénoncez une inégalité de traitement par rapport à d'autres établissements qui reçoivent du public. Et là, je pense directement au café, au restaurant ou encore au cinéma.
Je dénonce surtout le fait que s'il y a une fête parallèle qui existe, un monde parallèle où les fêtes sont organisées dans le privé, il y a des fêtes un peu partout, dans les maisons, dans les appartements, sur les bateaux à Saint-Tropez, un peu partout, mais pas dans les clubs. Je crois qu'il y a un marché parallèle mis en place qui ne subit aucun contrôle, qui n'est pas géré par des spécialistes. Et par exemple, dans toutes les villes de France, ce week-end, il y avait un petit peu partout des discothèques, des fêtes qui étaient organisées par des personnes, des individus qui organisent ça maintenant et qui ont trouvé une occupation cet été, faire des fêtes et du business. On n'encadrera pas les gens, en ne les accompagnant pas, en n'étant pas responsables, en ne prenant pas toutes les garanties pour qu'ils passent bien. Les gens qui sont capables, en l'occurrence nous, les exploitants de clubs, les exploitants de discothèques, dont le métier qui contrôle depuis tant d'années, qui a depuis tant d'années de jeunesse, qui sont également un petit peu, le disent certains ministres, et nounous de la République, eh bien nous, nos entreprises sont en train de mourir et ne survivront pas à la crise.
Alors vous dénoncez effectivement des flettes clandestines, pour autant vous comprenez que les autorités sanitaires s'inquiètent que les clubs et les bars de nuit puissent être des foyers de contamination.
Je ne comprends pas, personnellement je ne comprends pas, pas plus en tout cas que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui est réouvert en France. Je vois pas pourquoi les discothèques spécifiquement seraient plus à développer des clusters que les avions, que les salles de sport, que les cinémas, que les sports en commun, les concerts que je vois aux quatre coins de France, tous les week-ends, les fêtes partout. Pourquoi plus dans les clubs on développerait ça? Pourquoi les clubs échangistes sont-ils ouverts? Pourquoi les cabarets sont-ils ouverts? Comment aujourd'hui aller dans un club échangiste plusieurs et se retrouver là-bas et pas aller dans un endroit prendre un verre? Je ne comprends pas le raisonnement. On marche carrément sur la tête. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer face au gouvernement, au ministre, l'ancien gouvernement. Malheureusement, on est arrivé avec en plein remaniement dans cette aventure. Le message était passé très clairement avec les ministres. Malheureusement, d'autres sont arrivés à la place, il faut tout recommencer et en attendant, le temps passe, nous sommes bien 15 juillet et les clubs ne sont pas réouverts. Pour les clubs saisonniers, c'est une catastrophe parce qu'une saison dure 2 mois et demi et il ne reste plus que 45 jours et à ce jour, les clubs sont fermés, c'est la d'une profession, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nombreux qui vont disparaître. Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas d'issue au problème. Réaction d'une prise de conscience du gouvernement et d'une ouverture immédiate de tous les clubs pour pouvoir justement entrer. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de soucis cet été. Il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes sauvages. Et le gouvernement aura été prévenu, en tout cas, qu'il fallait nous laisser encadrer cette fête. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui sera responsable des accidents qui se passera cet été dans les privés, dans les maisons, sur les bateaux. Toutes les choses qui vont se passer, la violence, la drogue, l'alcool qui ne sera pas encadré, qui ne sera pas protégé, et c'est vraiment, vraiment, vraiment une catastrophe qui va se produire, un petit peu comme dans les rêves parties dans les années 90.
Vous pensez que le déconfinement dans d'autres secteurs a pu jouer contre vous? Je pense notamment aux restaurants qui s'étaient engagés à mettre en place des mesures sanitaires assez strictes. Et pourtant, à Paris, on voit quand même beaucoup d'établissements où les clients sont entassés les uns contre les autres, où les serveurs ne portent pas toujours forcément le masque qui leur était demandé. Vous pensez que ces négligences, dans les restaurants par exemple, mais il y a d'autres secteurs, ont pu jouer contre vous?
Je pense pas qu'il faille jeter la pierre à qui que ce soit. Je pense que les restaurants, les bars, les tout soit réouvert, c'est une bonne nouvelle. Et la preuve, regardez aujourd'hui, je suis pas un médecin ni spécialiste, mais regardez depuis le temps, depuis le 2, les bars, les restaurants sont réouverts. Il n'y a pas pour autant de il n'y a pas de catastrophe. La crise sanitaire n'est pas repartie. Donc puisqu'il faut qu'un pour juger s'il y a un nouveau départ. Regardez, depuis le 2 juin, aujourd'hui on est bien en juillet, ça fait un mois et demi maintenant que les bars, les restaurants, les endroits sont réouverts. Il ne faut pas leur jeter la pierre. C'est toute une jeunesse qui a envie de sortir, c'est toute une jeunesse qui a envie de quoi. C'est des gens qui ont juste envie de passer un été, de vivre leur été. J'ai pas l'impression que justement que les bars, les restaurants, tout ça font n'importe quoi. Tout le monde fait de son mieux. Le sang n'existe pas. Respecter comme nous l'imaginions les gestes barrières, tout le monde essaie de le faire de son mieux. Personne ne veut tomber malade, personne ne veut transmettre la maladie, personne ne veut que ce drame redémarre. Tout le monde veut que ce soit derrière nous, tout le monde veut terminer ce virus et passer à autre chose et essayer de continuer à vivre malgré tout et économiquement essayer de survivre. Mais le gouvernement et l'État a fait du doigt une profession et l'a complètement rayé de la carte. Il a éliminé en saison, il a éliminé en termes de métier. Aujourd'hui, c'est pas, il restait 1600 clubs en France et c'est pas grand chose. Le Covid, après l'été, je ne sais pas s'il en restera 300-400 et je ne sais même pas s'il en restera vraiment. Je ne sais pas qui a les épaules assez solides en termes de saisonniers pour imaginer de pouvoir redémarrer en mai 2021. Et surtout qu'on ne me parle pas des aides, parce que les aides, j'ai cru comprendre, on parlait de 1500 euros par mois. Personnellement, moi j'ai 80 contrats saisonniers. Qu'est-ce que je peux dire à ces gens? Comment je peux les accompagner? On parle même pas de moi, on parle même pas du VIP room, je reçois des appels de la France entière. Je me suis retrouvé à défendre une profession, essayer de les aider que je pouvais. J'ai des appels de camping dont les résultats du sont essentiels à la survie de leur camping. On parle de tout type. On parle de 25 000 emplois sur toutes les côtes, dans toutes les stations balnéaires, dans tous les endroits. Comment ces gens peuvent survivre? Comment ces gens peuvent attendre mai 2021? Qui va les aider à passer l'hiver? Comment ces gens peuvent fonctionner? Je crois que là, vraiment, on a créé une situation catastrophique pour le pays et catastrophique pour une économie, catastrophique pour une profession et catastrophique pour tous ces gens. Je suis tous les jours désolé de ne pas pouvoir leur donner de bonnes nouvelles, malgré tous mes combats, malgré toutes mes émissions, malgré toutes les rencontres avec les médias, malgré les rencontres avec les ministres, je n'ai pas pu leur proposer une date d'ouverture, je n'ai pas réussi à obtenir un arrêté qui nous permettrait aujourd'hui d'être tous réouverts.
Vous pensez qu'il y a une volonté du gouvernement de fragiliser un secteur qui a déjà eu pas mal de problèmes ces dernières années? On a eu les attentats, les gilets jaunes, les mouvements sociaux, vous le disiez, hein, 1600 discothèques aujourd'hui. On est passé de 4000 à 1600 en l'espace de quelques années. Vous pensez qu'il y a une volonté politique de s'en prendre à votre secteur d'activité?
Je crois que le gouvernement fait son max. Je pense que le gouvernement est débordé parce qu'il y a beaucoup de sujets. Une crise sanitaire, je pense que c'est le premier gouvernement qui affronte un tel événement. Il doit y avoir vraiment je pense que c'est compliqué. Il y a des nouveaux ministres qui arrivent, il y en a d'autres qui. Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté. Il y a M. Véran qui est strictement bloqué sur une situation. Il y a une députée qui vient à l'Assemblée, qui explique et qui reçoit les ovations de toute l'Assemblée. Et derrière, il y a M. Véran arrive et qui lui plombe l'ambiance, qui essaie de montrer en du doigt une profession. Je ne pense pas que ce soit ciblée. Je pense que on parle on a éliminé une profession et on a des véritables raisons, en tout cas pas plus que les autres qui ont reçu une autorisation de pouvoir continuer. Il y a tellement de choses qui sont incohérentes dans cette décision. Je crois que Monsieur Véran n'a, dans une situation comme celle-ci, privilégie, je le comprends, c'est la santé des gens, mais je ne pense pas que les clubs auraient été la source d'un nouveau décalage, d'un nouveau cluster, n'auraient été la source d'un rebond. Je ne pense pas, parce que si le rebond avait dû avoir lieu, il aurait dû, déjà, vous l'avez signalé vous-même dans le pot au préalable, dans cette interview, il aurait eu déjà lieu dans tous les publics, les cafés, les bars, les restaurants qui ont réouvert et qui, malgré leurs efforts, ne peuvent pas tout le temps, 100%, tenir la distance entre tout le monde. Je crois pas. Quand il y a eu la fête de la musique à Paris, il y avait des milliers de gens dans la rue. Tous les week-ends à Paris, il y a des fêtes qui se déclenchent, comme aux Invalides.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont autorisées.
Pardon ?
Ça ne veut pas dire pour autant que ces fêtes sont autorisées.
Je dis que dans la France entière, tous les week-ends, il y a des...
Ouais. Voilà. Un dernier mot. Si vous souhaitez convaincre le gouvernement qu'il faut rouvrir les discothèques, quelles mesures de protection, quels gestes barrières peuvent être appliqués en discothèque ? On imagine mal un bar de nuit avec tous les clients qui portent un masque. C'est pas du tout l'esprit.
On imagine mal un bar de nuit. Mais comme on adopterait les mêmes gestes et la même stratégie qui fonctionne bien, puisqu'il n'y a pas eu de que le font les restaurants festifs, que font les bars, que font les endroits publics qui sont fréquentés maintenant un mois et demi et sur lesquels il n'y a aucun retour négatif. Pourquoi les clubs auraient plus de problèmes que d'autres endroits publics ? Pourquoi ? Pour une seule bonne raison.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci
d'être
venu défendre votre point de vue. Désolé pour cette connexion dont la qualité était particulièrement difficile. Dans un instant, juste après la pause, on parlera d'un autre secteur, celui de la presse. Il a lui aussi été secoué par la crise sanitaire. La presse qui traverse également d'autres transformations, notamment la digitalisation. On en parlera avec Louis Dreyfus. C'est le président du directoire du Monde et de la coopérative des quotidiens. Il sera notre invité juste après l'info.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
Comment le secteur de la presse a-t-il traversé la crise et quels sont aujourd'hui les grands chantiers imposés notamment par l'accélération du digital ? On va en parler avec Louis Dreyfus, président du directoire du Monde et de la coopérative des quotidiens. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La crise sanitaire a généré un paradoxe. Le besoin d'information, la demande pour l'information a été particulièrement fort pendant les semaines de confinement. Mais en parallèle, la publicité a dégringolé. Évidemment, ça pèse sur la rentabilité de tous les groupes qui dépendent de la publicité. Est-ce que vous avez, au Monde, traversé cette crise ?
On a été évidemment, comme tous, très secoués par la crise. La première étape, ça a été la décision que nous avons prise, Jérôme Finoglio, qui est le directeur du journal, et moi-même, d'inciter tout le monde à partir en télétravail dès le 13 mars, en disant... Il est en train de se passer quelque chose de majeur. On souhaite protéger d'abord les salariés. Et puis, vous savez, au Monde... toute actualité particulièrement intense, inédite, galvanise les équipes parce qu'effectivement, c'est ce qui fait le sel du journalisme, c'est d'être en première ligne sur ces moments-là. Donc on a réussi, tout en mettant 100% des salariés en télétravail, à continuer à produire le journal, produire le site. Et c'était d'autant plus important qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a eu une appétence très forte des Français pour de l'information, pour comprendre ce qui se passait. Alors c'était vrai pour Le Monde. C'était vrai pour un autre de nos magazines, Courrier International, qui a vu ses ventes augmenter de 30% pendant toute la période de confinement. C'est-à-dire que on a bien vu que dans cette période de crise majeure, nos lecteurs ou les internautes cherchaient à avoir plus d'informations, une information contextualisée, une information vérifiée. Et là, le fait d'avoir autant de journalistes, parce que nous avons aujourd'hui au Monde plus de 450 journalistes, hein, qui se compare à environ 300 journalistes il y a 10 ans. Donc on a fait ce choix d'investir dans le journalisme de qualité. Et bien dans ces moments de crise, c'est le moment où vous pouvez déployer un maximum de ressources et donner à lire et à voir à vos lecteurs. Et donc, effectivement, on a eu une progression de nos ventes, une progression très importante de nos abonnements numériques.
Pendant le confinement.
Pendant le confinement. Concrètement, on était fin 2019 à un peu plus de 200 000 abonnés purs numériques, ce qui est très important. On était déjà leader sur le marché français. Aujourd'hui, on est à plus de 300 000. C'est-à-dire en 3 mois, on a eu une augmentation de 50% de nos abonnements numériques. Donc ça, c'est très bien. Mais pour notre modèle économique, effectivement, en parallèle, il y a eu un trou d'air publicitaire. C'est-à-dire que les annonceurs ont du jour au lendemain arrêté d'investir en dépenses marketing, ce qu'on peut comprendre finalement, puisque il y avait d'abord des Français qui étaient confinés, et puis un risque sur l'économie des sociétés qui fait que chacun a préféré désinvestir. Et donc on s'est retrouvé avec cette situation très paradoxale, c'est-à-dire qu'un journal qui était de plus en plus lu, et de manière de plus en plus longue, on a les chiffres qui nous le montrent, et en même temps, des annonceurs qui se retiraient dans l'attente de comprendre quel était l'impact économique pour eux de la crise sanitaire.
Alors c'est quelque chose qui s'est produit aussi pour les chaînes d'info, on le connaît bien ici dans ce groupe à BFM. Vous êtes inquiet de ce recul des investissements publicitaires? C'est un trou d'air ou est-ce que, compte tenu de la crise qui s'annonce, on risque d'avoir des mois difficiles à passer?
Moi je pense aujourd'hui, les premiers chiffres qu'on a pour l'été et le début et la rentrée, nous incite à être un peu plus optimiste, c'est-à-dire qu'on voit nos grands partenaires annonceurs revenir nous solliciter pour revenir dans les pages du journal et sur le site. Malheureusement, je crains que ce soit vrai pour les grands groupes médias, les marques statutaires, les marques qui avaient pu développer leur audience, mais pour les titres plus petits, les groupes plus marginaux, ça sera compliqué aujourd'hui de reconquérir ce marché publicitaire. Donc il y a un risque effectivement pour notre secteur qu'il y ait une consolidation excessive autour de quelques grands groupes, alors même que ce qui fait la qualité de nos médias, c'est aussi leur diversité et leur richesse.
Il y a peut-être aussi l'exposition au marché publicitaire. Au monde, ça représente quel pourcentage de votre chiffre d'affaires?
Alors, c'est vrai que nous, en misant sur le lectorat, les ventes papier et l'abonnement numérique, on est arrivé aujourd'hui à plus de 70% de nos revenus qui viennent de nos lecteurs. Et donc, quand vous avez un trou d'air publicitaire, ça n'affecte
Que
30%. Donc, c'est important en termes de marge, mais le fait que les abonnements numériques augmentent à ce rythme permet de compenser une partie de cette perte. Et nous, on pense, au monde, on s'est fixé un objectif que j'espère qu'on tiendra, qui est en 2025, d'atteindre 1 million d'abonnés purs numériques.
On parlera de votre stratégie numérique dans un instant. J'aimerais qu'on termine avec la crise sanitaire. Certains magazines, notamment dans la presse féminine, ont été contraints de suspendre leurs publications. On sait que la presse féminine dépend beaucoup des recettes publicitaires. Vous pensez qu'il y aura des faillites nombreuses, peut-être?
Je pense qu'il y a un risque de faillite et que les titres qui ont décidé de retarder ou de suspendre leur parution ont pris un vrai risque. C'est-à-dire que parmi les risques auxquels nous sommes confrontés, c'est le risque de déshabituer les lecteurs d'acheter la presse, retrouver la presse en kiosque. Le gouvernement avait décidé que la presse faisait partie des biens de première nécessité. Ça, c'était un acte de foi important dans notre secteur, puisque les kiosques pouvaient rester ouverts. Donc, à l'exception des gares et des aéroports qui étaient fermés, nous, on a vu une augmentation du trafic en kiosque. C'est-à-dire, les gens, même en période de confinement,
allaient acheter un exemplaire papier. Voilà.
Donc, et je pense que si on peut parier que nous vivons aujourd'hui, nous traversons un trou d'air publicitaire, ce qui est capital, c'est de nous assurer que nous gardons le lien avec nos lecteurs. Et donc, nous, on a veillé, en tout cas au groupe Le Monde, à ne pas suspendre de parution, à ne pas retarder des parutions, mais au contraire, d'être au rendez-vous, qui est un rendez-vous important pour nos lecteurs.
Est-ce qu'il y a dans votre groupe des publications, des titres en particulier, qui ont été beaucoup plus fragilisés que d'autres par cette crise?
Celui qui a été le plus impacté, c'est Le Monde, puisque c'est celui qui a la part de marché publicitaire la plus importante, et en même temps, c'est celui qui a bénéficié le plus de la croissance des abonnements numériques. Donc ça se comprend.
Vous pensez qu'il faudrait un plan d'aide du gouvernement plus spécifique, plus important pour la presse?
Je pense que s'il n'y a pas effectivement un plan d'aide organisé par le gouvernement et notamment par le ministère de la Culture, on aura beaucoup de titres qui vont devoir s'arrêter. Et en termes de bassin d'emploi, puisque c'est une des priorités du gouvernement, ça risque d'être dramatique. On était des gens d'un secteur sinistré et il faut absolument trouver un moyen pour que accompagner les groupes, qu'ils soient petits ou gros, dans cette période, qui est une période forcément transitoire, mais qui est particulièrement difficile.
La presse est un secteur fragile, déjà confronté depuis quelques années à une gigantesque mutation, celle du numérique. Les journaux ont eu du mal à trouver un modèle économique rentable dans le numérique. Et vous faites partie des quotidiens qui ont réussi leur stratégie numérique. Expliquez-nous.
Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, les sites internet des grands médias sont partis, à mon avis, sur une illusion qui était le tout gratuit, en disant on va capter une nouvelle audience, qui sont une audience plus jeune, on va leur donner nos articles gratuitement et on va vivre avec la publicité.
Mais on pensait à cette époque-là que le digital resterait peut-être marginal et que l'essentiel se ferait toujours sur les ventes papier.
Oui, et que le marché publicitaire serait beaucoup plus vigoureux. Et on a donné l'habitude aux internautes de lire des articles gratuitement. Et c'est très compliqué d'inverser cette tendance. Au Monde, quand moi je suis arrivé à la présidence du groupe il y a 10 ans, avec Xavier Niel, Pierre Berger et Mathieu Pigasse, on a décidé d'investir sur le numérique et le numérique payant, en disant on va créer un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on va recruter des journalistes qui vont faire plus de contenu, qui seront payants, mais qui vont attirer des lecteurs, qui vont gonfler le chiffre d'affaires, qui nous permettent de recruter, et ainsi de suite. Et donc, c'est en ayant une politique d'investissement relativement coûteuse, mais ambitieuse, qu'on a réussi à ça. Concrètement, si vous regardez il y a 10 ans, Le Monde devait avoir 20 000 abonnés pure numérique. Aujourd'hui, on en a plus de 300 000. Donc on a réussi ça, on est leader de très loin sur le marché français, mais ça a été une période longue, et il est possible aussi que ce que Le Monde a réussi, parce que Le Monde a une histoire très particulière dans les médias, Le Monde a un positionnement très particulier auprès des étudiants, auprès des parents, auprès des enseignants, tout le monde ne puisse pas le réussir. Donc c'est vrai pour les titres très haut de gamme, on a l'exemple du New York Times que nous suivons, qui doit aujourd'hui atteindre 5 millions d'abonnés pure numérique. Nous, on considère qu'on doit pouvoir atteindre le million d'abonnés pure numérique. Tous les titres, malheureusement, ne peuvent pas avoir ce type d'ambition parce qu'ils peuvent avoir un lectorat soit plus ciblé, soit plus populaire. Et là, pour eux, il y a de vraies difficultés.
Qu'est-ce que vous avez imité, copié éventuellement du New York Times? Je sais que vous regardez beaucoup ce qui se fait à l'international et notamment donc le New York Times, qui est vraiment une référence en matière de presse numérique.
La première chose qu'on a suivie, mais qui fait partie de l'ADN du Monde bien avant le lancement du site internet, c'est la qualité et la rigueur de l'information. En disant, si on doit conquérir un public d'internautes qui vont payer pour des contenus, il faut que cette information soit extrêmement rigoureuse, extrêmement diversifiée. C'est pas pour rien que Le Monde est le média français qui a le plus de correspondants à l'étranger. On cherche à avoir ça. Et puis après, on a cherché à creuser des thématiques sur lesquelles on pouvait être plus fort et avec des informations exclusives.
Est-ce que c'est pas plus difficile dans l'environnement numérique de s'imposer comme un média de qualité? Sur Internet, on a l'habitude de trouver énormément de contenu gratuit. Est-ce que c'est pas plus difficile qu'ailleurs de faire comprendre à l'internaute que l'information de qualité a un prix?
C'est paradoxalement non. Je pense que plus vous avez de fake news, plus vous avez une demande des lecteurs de trouver de l'information fiable. Après, la question, c'est comment vous pouvez aller les chercher sur des réseaux sociaux gratuits et les amener à payer. Et là, on a travaillé beaucoup avec Facebook notamment, qui nous a aidé à comprendre quels étaient les centres d'intérêt des internautes sur Facebook et comment les amener à un moment payer pour des contenus. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que nos internautes qui payent, nos abonnés numériques, sont particulièrement fidèles et qu'on arrive à être sur une croissance forte. L'an dernier, nous avions une croissance de 34% de nos abonnés numériques. Cette année, on est sur une croissance de 50%. Ça commence à être, en termes de chiffre d'affaires, des chiffres très importants. Cette année, en 2020, le chiffre d'affaires de l'abonnement numérique du Monde sera supérieur au chiffre d'affaires publicitaire. Donc on est sur des vraies dynamiques.
Le positionnement marketing du groupe, j'imagine que vous l'étudiez et vous le calculez soigneusement. Vous ne faites pas partie, par exemple, des bouquets de presse, vous savez, les caféines et autres. C'est un choix délibéré, j'imagine. Pourquoi ?
Parce que on ne voit pas très bien le modèle économique des titres qui mettent leur contenu sur ces kiosques et qui vont n'avoir qu'une quote-part de l'abonnement à ces kiosques. Nous considérons que la position de leader nous permet d'avoir des abonnés qui ne sont abonnés qu'à notre titre.
Vous n'êtes pas le seul, hein. D'autres quotidiens, grands quotidiens nationaux, ont choisi le même positionnement.
On choisit de se retirer. Alors que nous, depuis le début, on a choisi de ne jamais y aller parce qu'on a considéré qu'on allait probablement servir de locomotive pour d'autres, mais en tirer un bénéfice qui était très marginal. Et si vous regardez aujourd'hui le succès du Monde sur Internet en termes d'abonnement numérique, il n'est pas exclu que ce soit notamment le fait de ne pas être allé sur ces kiosques numériques qui explique l'importance de notre bassin d'abonnés numériques.
Est-ce que le digital, selon vous, a fait disparaître la frontière entre les différents médias ? Je m'explique, ici on est une radio, BFM Business, qui est aussi devenue une télévision. Vous êtes un journal qui devient un petit peu une radio avec des podcasts, et je crois que c'est quelque chose que vous allez développer.
On essaye de diversifier les formats sur lesquels on peut travailler. C'est vrai que le Monde, il y a 20 ans, il y a 25 ans, n'avait pas de photos, était un journal particulièrement gris, avec une qualité d'écriture qui était reconnue. On cherche à garder cette qualité d'écriture, et quand vous avez des doubles pages d'Ariane Chemin, de Florence Aubenas, on garde cette qualité extraordinaire, mais on veut aussi aller effectivement sur d'autres territoires, qui sont souvent des territoires audiovisuels. Je vais prendre un exemple. Il y a un an, Luc Brunner, le directeur de la rédaction, a décidé de confier à une quinzaine de journalistes une enquête et un temps long sur les féminicides pour suivre ce sujet qui a donné lieu un an plus tard à un documentaire qui est passé en prime time sur France Télévisions. Donc on va chercher à aller explorer d'autres formats, de même que nous sommes désormais, on est depuis 3 ans sur Snapchat. On a une édition quotidienne et tous les parents d'ados savent que Snapchat, le monde sur Snapchat est très regardé. On doit avoir sur Snapchat 1,4 million d'ados français qui nous regardent. C'est considérable. Le Monde, vous l'avez peut-être vu, il y a 2 semaines, s'est lancé sur TikTok. Donc on va aller chercher, c'est une façon pour nous d'être plus en prise avec les nouvelles générations, d'explorer de nouveaux formats avec une rédaction souvent plus jeune, et puis petit à petit de les amener à des contenus qui sont les contenus payants, à plus forte valeur ajoutée, et donc c'est ça ce modèle.
Le développement des podcasts, vous allez continuer ?
On va continuer les podcasts. On a une hésitation sur le modèle économique des podcasts. C'est-à-dire que c'est très séduisant de se dire qu'on peut faire des podcasts. Si vous promenez dans les rues, vous voyez que beaucoup de gens ont des écouteurs, donc il y a des temps d'écoute qui sont probablement assez larges. Mais en termes de modèle économique, aujourd'hui, c'est compliqué à trouver. Les annonceurs restent marginaux. Donc, on va les podcasts. Une des pistes, c'est de l'intégrer à notre offre payante pour fidéliser nos abonnés. On va probablement faire d'autres expériences. On essaie juste que chacune de ces diversifications ait un modèle économique, puisqu'elle a vocation à permettre de financer la rédaction du papier comme du numérique.
Alors, le développement du numérique a eu un impact sur la presse papier. La messagerie Presstalis a été confrontée à des difficultés financières insurmontables. Désormais, c'est France Messagerie, et ça s'est fait quand même dans la douleur.
Oui, ça s'est fait dans la douleur, ce qui est et c'est très regrettable. Mais on a été confronté à la fois à une crise économique, c'est-à-dire des coûts fixes de la messagerie qui n'étaient plus en rapport avec les volumes qui étaient des volumes baissiers, et plus certains grands groupes de presse magazine qui ont choisi de partir vers une autre messagerie. Donc face à un risque qui était un risque d'effondrement du secteur, c'est-à-dire de Presstalis, mais en cascade des diffuseurs, vous avez 23 000 diffuseurs en France, on a choisi, nous, Coopérative des Quotidiens, de faire une offre de reprise pour une partie de Presstalis et de créer France Messagerie, pour nous assurer qu'il reste un réseau de distribution en France. Quelle que soit la vitalité du numérique, les kiosques sont l'existence des kiosques à journaux est un enjeu démocratique. Dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages, une partie de l'information citoyenne passe par ces kiosques et journaux. Et j'espère que le ministère de la Culture et Roselyne Bachelot prendra ce problème à bras le corps. Il y a une question de rémunération des diffuseurs. C'est-à-dire que vous avez des diffuseurs qui ont un travail particulièrement astreignant, mal rémunéré, et si on veut que la presse puisse être distribuée, il faut qu'il y ait diffuseurs. Au cours des 3 derniers mois de confinement, plus de 700 diffuseurs ont déjà fermé de manière définitive, alors qu'on était sur un rythme de fermeture qui était de l'ordre de 500 à 600 par an. Donc là, il y a une accélération. Je pense que le ministère de la Culture doit s'emparer de ce sujet et veiller à ce que nos diffuseurs soient mieux traités et qu'on soit plus vigilant sur l'existence de ce réseau.
Mais est-ce que le système de distribution des journaux avec des anciens monopoles, enfin, est-ce qu'il ne fallait pas réformer ce système, peut-être l'ouvrir ?
Il a été réformé.
Oui, mais davantage.
Prestalis avait 912 salariés, France Messagerie en a 265. Donc vous êtes sur quand même quelque chose qui est une réforme particulièrement lourde, douloureuse pour les salariés. Hein. Plusieurs centaines de salariés qui ont perdu leur poste, un moment où on entre dans une crise économique, et alors même que pendant le confinement, ils ont tous été fidèles au poste. Donc oui, il y a une crise. Moi, je pense qu'avec une entreprise de 265 salariés, on est plus à même d'affronter la baisse des volumes et en étant plus rigoureux sur la gestion, d'offrir une prestation de bien meilleure qualité aux éditeurs, notamment magazines.
Une actualité plus réjouissante, le déménagement de votre groupe dans le nouveau siège social, Gare d'Austerlitz à côté, pour les Parisiens.
Oui, ben ça c'est un événement majeur à plus d'un titre. D'abord, en interne, évidemment, savoir que les actionnaires ont permis au Monde de devenir propriétaire d'un siège qui fait 23 000 mètres carrés. 23 000 mètres carrés, c'est l'équivalent de Beaubourg. Donc on a un siège construit, dessiné par
un architecte
norvégien, ouais. Snoeta, qui est notamment dessiné l'architecte, l'Opéra d'Oslo. Donc d'abord, c'est une marque de confiance dans l'avenir. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires de notre bâtiment et ce bâtiment a été construit pour faire pour les journalistes et pour qu'on puisse faire du journalisme de qualité. Et puis, à une période où nos collaborateurs reviennent petit à petit du télétravail, leur dire revenez dans ce nouveau siège, puisque concrètement, nous avons déménagé les équipes pendant le confinement et donc elles reviennent maintenant dans un nouveau siège. À un moment où on cherche tous des perspectives et une forme de réassurance pour nos salariés, se dire qu'ils rentrent dans un immeuble neuf, objectivement superbe et dans lequel on espère bientôt pouvoir accueillir nos lecteurs dans des manifestations, ben c'est un message de confiance et d'espoir, donc ça tombe à pic pour nous.
Un siège installé sur les bords de Seine à Paris, c'est aussi statutaire ? Ça contribue à l'image peut-être et au rayonnement du journal ? Vous parlez des salariés, mais
oui,
ben par rapport aux lecteurs, à la population ?
Je pense que pour nous, la préoccupation c'était d'abord la qualité de travail pour les journalistes. Vous savez qu'on a des journalistes qui viennent très tôt le matin, on a un journal qui se boucle à 10h30. Faire le choix qu'ont fait Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas ensemble, que notre siège soit dans Paris, en bord de Seine, un siège très central, c'était aussi une marque de reconnaissance de l'implication des salariés.
Le télétravail, vous en avez parlé, s'il y a un métier qui se prête bien au télétravail, c'est le métier de journaliste. On peut le faire n'importe où, à distance, avec un téléphone, une connexion internet. Vous avez l'intention de développer le télétravail ?
Ma première préoccupation, c'est d'abord que les collaborateurs reviennent. Donc reviennent progressivement, reviennent sur la base du volontariat jusqu'au 1er septembre, parce que je pense que il est important de nourrir ce collectif et que le télétravail, d'abord, est particulièrement astreignant et fatigant pour beaucoup, qui sont pas toujours dans des conditions parfaites. Et puis, parce que les échanges de visu permettent de nourrir une réflexion, dégager des axes de travail. Donc, on va essayer d'abord de faire revenir nos salariés. Et puis, et c'était notre objectif bien avant cette crise, avec Jérôme Feniglio, de discuter d'accords de télétravail pour progressivement permettre aux salariés une partie du temps d'être en télétravail, parce que en termes de qualité de vie, ça peut être structurant.
Mmh. Le confinement nous a montré ce que pouvait être le télétravail avec ses avantages, mais aussi ses excès et le danger que ça représente. Vous pensez qu'on avait trop misé dessus et que les entreprises qui ont annoncé le passage en tout télétravail, et je pense notamment à PSA, c'est un excès ?
En tout cas, le télétravail, dans une période où vous avez des écoles qui sont fermées, est quelque chose de particulièrement compliqué pour beaucoup de salariés qui n'ont pas des logements ou un équipement informatique qui leur permet de s'isoler.
Mais est-ce qu'on a mesuré vraiment toutes les implications du télétravail ? Ce que ça voulait dire en termes de groupe dans l'entreprise, en termes aussi de mode de vie, puisque c'est un changement radical et qui va bien au-delà du cadre de l'entreprise.
Effectivement, c'est pour ça que nous, on souhaite d'abord que les salariés reviennent, et puis après discuter d'accords de télétravail. Je pense que des accords de télétravail partiels vont être développés dans toutes les entreprises, parce qu'il y a quand même une aspiration forte des salariés depuis qu'ils ont découvert le télétravail à pouvoir sortir d'une logique qui était d'une logique d'être à son bureau tous les jours. Maintenant, il y a des implications sur l'état physique et morale des salariés qui, effectivement, qu'on commence à découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut le faire de manière très, très progressive.
On va terminer avec quelques chiffres. Vous savez, on est une chaîne financière. Bénéfice net de 2,6 millions d'euros l'an dernier. Stabilisation de votre chiffre d'affaires avec, vous l'avez dit, une forte croissance du nombre d'abonnés purement numériques. 29% de hausse sur 2019. EBITDA positif pour la troisième année consécutive. Comment est-ce que vous voyez 2020?
2020, on fait tout pour que l'EBITDA soit positif également, en dépit de ce trou d'air qui a duré 3 mois. Mais notre préoccupation principale à Jérôme Fenoglio, à moi et à nos actionnaires, c'est deux choses. D'abord, quelles que soient les mesures d'économie qu'on peut mettre en place, qu'elles n'obèrent pas les ressources rédactionnaires et la qualité d'innovation. Ce sont des actionnaires qui sont là pour le long terme et ils souhaitent qu'on protège les rédactions et notre stratégie d'innovation. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on retrouve en 2021 le niveau de rentabilité qu'on avait avant, c'est-à-dire avec des EBITDA de l'ordre de 14-15 millions d'euros. On peut avoir un trou d'air en 2020, les banques nous ont suivis, l'ont financé, les actionnaires aussi, mais il faut absolument qu'on garde cette exigence de rentabilité financière qui est un des socles de l'indépendance du journal et du groupe.
Mais ça passera par des mesures d'économie ?
Ça passe par des mesures d'économie courantes, pas forcément par des mesures qui touchent les effectifs. On essaye aujourd'hui de protéger les effectifs et la taille du groupe et de travailler avec les différentes directions pour s'adapter au nouveau contexte.
Donc à ce stade, vous n'avez pas prévu de réduction d'effectifs ?
Non.
Au monde ?
Non.
Et comment est-ce que vous allez compenser alors les 30% de revenus publicitaires qui vont dépendre du marché publicitaire d'ici la fin de l'année ?
D'abord, vous savez, la fin d'année est une période particulièrement forte pour le monde en termes de marché publicitaire, puisque 50% de nos recettes interviennent les 4 derniers mois. Donc on pense que s'il y a un début de rebond, on va protéger une partie de nos recettes. Par ailleurs, l'accélération de l'abonnement numérique compense une partie de cette perte. Donc on aura une perte en 2020 de chiffre d'affaires. Si 2021, on arrive à retrouver le niveau de rentabilité, ben on aura eu un trou d'air comme ça peut arriver. Mais dans les médias, et plus globalement des entreprises, très souvent, les stratégies de stop and go, où vous investissez, puis vous arrêtez, vous faites partir, puis vous réinvestissez, sont des stratégies qui sont compliquées si vous essayez d'avoir une stratégie long terme. Le Monde, pendant 10 ans, entre 2000 et 2010, a perdu environ 10 millions d'euros par an. Depuis 2010 et l'arrivée des actionnaires, nous sommes rentables. On avait des niveaux de rentabilité assez importants. Tout en recrutant beaucoup de journalistes, on va essayer de rester sur cette dynamique et d'absorber le trou d'air actuel.
Merci beaucoup, Louis Dreyfus, d'être venu en plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du directoire du Monde et de la coopérative des quotidiens. On se retrouve demain à partir de midi sur BFM Business.